Donc je pense que ce référendum ne veut pas dire grand-chose au final, en plus du fait qu'il soit illégal. Et ensuite, en parlant des... alors je sais pas, moi je rapprocherais pas forcément ça des mouvements populistes en Europe,
c'est vrai,
ni du Brexit. Mais par contre, depuis quelques années, on voit l'émergence de beaucoup de mouvements indépendantistes, même en France, par exemple, avec la Corse, et l'entrée des indépendantistes au Parlement corse.
Après,
donc, vas-y Baptiste. Oui,
la Catalogne, c'est quand même bien plus vieux que ça. Ça a été au 18e siècle, ça a commencé. L'Espagne voulait imposer les Catalans et ils ont refusé parce que ça leur faisait vraiment perdre plus que s'ils avaient été seuls. Et c'est en 2003 que déjà le renforcement du pouvoir politique de la Catalogne a été voté par référendum en Espagne, justement, en entier.
Bah c'est même depuis les années 70, la fin de Franco.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que sous Franco, ils ont énormément subi la Catalogne. Alors que seuls, ils auraient peut-être mieux pu s'en sortir. Donc, c'est pas vraiment une vague populiste. C'est bien plus ancien que ça. Et en 2010, ils ont essayé aussi de se qualifier de nation et de mettre le catalan au-dessus de l'espagnol. Ça a été refusé par le gouvernement. Ils ont pris ça comme une trahison, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, selon des sondages, le pourcentage de Catalans favorables à l'indépendance était de 10% en 2010. Et il serait aujourd'hui 40% en 2017. Mais voilà, après, si la Catalogne devenait indépendante, on pourrait s'attendre à des contestations sociales. Parce que c'est quand même vachement... Il n'y a pas 90% des Catalans qui sont pour. Donc,
Oui, on a pu voir ça dans les manifestations récemment.
Oui, voilà, par exemple.
Il y a eu énormément de manifestations contre l'indépendance. Et pour moi, je pense qu'elles ne sont pas assez prises au sérieux. On voit toujours dans les médias toutes les manifestations pro-indépendance, les volontés indépendantistes, sans jamais demander aux Catalans qui veulent rester rattachés à l'Espagne pourquoi ils veulent rester rattachés à l'Espagne.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Et donc là, on est tous d'accord que vous êtes tous contre l'indépendance de la Catalogne.
Personne n'est pour.
Moi, je suis pas contre l'indépendance de la Catalogne en soi, mais je suis contre les événements qui sont passés ces derniers temps. C'est-à-dire que un référendum qui a été illégal, il y a eu un peu un coup de force de la part du gouvernement catalan.
Ils ont peut-être pas eu le choix.
Ils ont pas eu le choix, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment légitime quand on voit le sondage que tu citais où 60% des Catalans se déclaraient contre l'indépendance? Donc voilà, moi je pense que la solution serait peut-être les élections qui vont avoir lieu le 21 décembre, je crois, les élections anticipées. Et là, toutes les opinions pourront s'exprimer dans ces élections.
Ou Carles Puigdemont a annoncé sa candidature.
Sa candidature, voilà. Donc,
oui. Oui, donc c'est vrai que ça pourra se traiter là-bas au final.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Bah oui, moi non plus, je suis clairement pas contre l'indépendance. Ce que je veux en fait, c'est. Le mieux c'est ce que le peuple veut, ouais. Et vu que le référendum il était illégal, c'est comme l'a dit Antoine, il n'y a que les partisans de l'indépendance qui ont voté, et le référendum il aurait été aussi illégal en France, en Allemagne, en Italie, n'importe où, tous les pays ont la même constitution. Donc la solution c'est les élections législatives de décembre qui va excusez-moi qui diront vraiment si les Catalans sont pour l'indépendance en élisant les indépendantistes ou s'ils sont opposés.
Ok. Moi, c'est juste pour vous annoncer une nouvelle plutôt agréable. C'est que Liam, donc, qui est normalement à la technique avec moi, est en ce moment en Espagne chez un correspondant où sa mère parle français. Donc, elle va nous appeler d'ici quelques minutes pour qu'on puisse lui poser des questions ou pour qu'elle puisse nous expliquer un peu les tensions qu'elle vit là-bas. Ouais. Voilà.
Un point de vue intérieur, oui, c'est vrai que
c'est ça.
Et elle saura mieux parler que nous, je pense.
Ouais.
Tout de suite plus concernée. Mais par exemple, si on mettait le cas de la France, une indépendance de la Corse, vous serez plutôt pour, plutôt contre?
Je pense que ça dépend. La Corse, c'est totalement différent parce que, par exemple, la Catalogne.
Économiquement parlant, c'est différent.
Économiquement, voilà, c'est économiquement parlant que je voulais parler surtout. C'est que la Catalogne, c'est le même PIB. Si on compare, c'est le même PIB que l'Irlande. C'est une taille comparable à d'autres pays d'Europe. Donc, pourquoi pas économiquement, socialement, culturellement, historiquement, c'est aussi une culture qu'ils ont différente. qui sont aussi différentes de l'Espagne. Après, la Corse, c'est différent, c'est économiquement. Bah, c'est...
Pourquoi pas une autonomie de la Corse ?
Oui, comme avait Barcelone ouais. jusqu'à présent, oui, ils avaient une région autonome. Donc.
Après, en Espagne, les régions, donc c'est des régions indépendantes. Et après, on voit que donner de l'indépendance à la Catalogne, par exemple, ensuite, ça donne des volontés indépendantistes. Donc, si on rend la Corse indépendante, enfin, autonome, pardon, peut-être que d'ici 10-15 ans, elle demandera une indépendance. Vas-y.
Pas forcément, parce que...
Ah, non, vas-y, sûr.
Pas forcément, parce que, justement, comme en étant rattaché à... Enfin, le fait qu'il y ait de l'autonomie, ça calme les ardeurs... nationaliste, indépendantiste, et en même temps le fait qu'elle soit rattachée à la France, ça lui donne une certaine stabilité politique et économique.
Oui, ouais. Bah après la stabilité économique, la Catalogne au final, si elle sort de l'Union européenne, enfin si elle sort de l'Europe, de l'Espagne pardon, elle sort de l'Union européenne, donc ça peut être aussi vu comme une déstabilisation économique, et pourtant ça les freine pas, on va dire, enfin c'est pas ça qui les bloque.
Après, à l'échelle de la Catalogne, économiquement parlant, ce serait bénéfique pour eux. Mais à l'échelle de l'Espagne, ce serait quand même un manque à gagner énorme pour toutes les autres régions espagnoles qui sont beaucoup moins attrayantes que la Catalogne et beaucoup moins riches. Ça aurait un impact vraiment énorme pour toutes les autres régions d'Espagne.
Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense que la question économique en Catalogne a eu un gros impact. C'est-à-dire que Quand le gouvernement catalan a déclaré l'indépendance, et même les jours précédents à déclaration, il y a beaucoup de grandes entreprises catalanes, enfin dont le siège était basé en Catalogne, qui ont déménagé leur siège social, notamment à Madrid. Et je pense que ça a beaucoup joué.
C'est clair.
Mais enfin, il n'en reste pas moins que les autres régions seront appauvries économiquement.
Ah oui.
Donc finalement.
Oui, mais elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. C'est une affaire entre la Catalogne et le gouvernement espagnol.
Oui, et donc l'Espagne. Est-ce que l'Espagne n'aurait pas son mot à dire, justement, puisqu'elle est économiquement impliquée?
Ah oui, mais donc au final, les élections législatives, ça concerne toute l'Espagne.
Voilà, les élections législatives pourront nous donner la véritable réponse, car elles concernent toute l'Espagne. Et
mais après, si on prend toute l'Espagne dans son ensemble, il y a quand même peu de chances pour que Puigdemont soit élu. Enfin,
non, les élections, c'est la Catalogne.
Oui, c'est que la...
c'est pas l'Espagne. Ah, c'est que la Catalogne.
C'est
la
législative.
Ah oui, d'accord. Ok, autant pour moi. D'accord. Mais tu voudrais faire un référendum dans l'Espagne entière, toi, du coup. Parce que si, pour toi, l'indépendance de la Catalogne serait comment dire, aurait des répercussions économiques sur les autres régions. Dans ces cas-là, autant organiser un référendum sur toute l'Espagne pour savoir ce que les autres régions en pensent de cette indépendance. Parce que tu dis que toute l'Espagne est concernée.
Ce serait beaucoup plus légitime. Mais d'un point de vue logique, c'est comme si on faisait un référendum à l'échelle de l'Europe parce que la Catalogne n'allait pas rester dans l'Europe. C'est inutile. On connaît tous le résultat et ce sera contre l'indépendance. Le vote d'indépendance des Catalans doit revenir aux Catalans eux-mêmes. C'est les premiers concernés. Mais il ne faut pas oublier que ça aura un impact en premier cas sur les Espagnols.
Ouais, bah c'est juste pour que tu rappelles le numéro de CCC, parce que je sais pas si tu l'as dit au début.
Non, je l'ai absolument pas dit. Ouais. Alors, si vous avez un avis sur la Catalogne, l'indépendance, c'est 0952 368 531. Le 0905. Oula, je vais recommencer. 0952 368 531.
Voilà.
Est-ce qu'on va se mettre en relation avec...
Ouais, il attendait justement le numéro, donc c'est pour ça que je le dis.
Parfait.
Et du coup, une dernière, peut-être en attendant, une question comme ça qui me vient, justement, tu parlais de l'Europe et tout. Est-ce que la Catalogne serait un État, si elle devient indépendante, est-ce que ce serait un État qui appartiendrait à l'Union européenne, ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut...
Techniquement, c'est pas vraiment possible, parce que pour intégrer l'Europe, il faut l'accord des 28 pays membres, enfin, bientôt 27, et l'Espagne ne donnerait pas son accord.
Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans ces cas-là, elle se retrouverait
après, logiquement. Ça arrangerait. Enfin, ce serait un manque à gagner pour l'Espagne qui n'aurait plus une zone. Enfin, la zone de libre-échange entre la France et l'Espagne, ça ferait quand même une énorme zone douanière. Je sais pas s'il rentrerait dans l'espace Schengen, l'espace de libre-échange, tout ça. Mais en tout cas, je pense que ce serait un mauvais choix stratégique pour l'Espagne, car ils y perdront au final.
Mais Politiquement,
c'est sûr.
Je pense pas qu'ils feront ça.
Politiquement, c'est sûr qu'ils auront toujours une rancœur envers les Catalans et voudront toujours les exclure.
Alyosha, toi, t'en penses quoi de... T'as un avis de...
Alors, je veux dire, si ils veulent leur indépendance, moi, je vois pas pourquoi on leur refuserait. Et puis, bon, si ils font un vote seulement pour la Catalogne, c'est vrai que c'est un petit peu désavantagé l'Espagne de dire, nous, on fait un référendum et vous, on vous demande pas votre avis. C'est un peu, c'est vrai que l'Espagne aurait son mot à dire dans l'histoire. Je veux dire, si il y a un État, enfin, s'il y a une région en France qui veut se séparer de la France, on demandera son avis
à la région.
À la région et au pays en lui-même. Parce que c'est quand même important de savoir si les autres Espagnols, ils vont devoir traverser une frontière juste pour aller dans ce qui était anciennement leur propre pays.
C'est vrai. Tu voulais parler peut-être
Si, je voulais simplement... moi, j'ai l'impression que c'est ce gouvernement-là qui est vraiment hostile à l'indépendance de la Catalogne. Le gouvernement actuel, et c'est possible pour des futures élections que si le gouvernement change, la vie sur la Catalogne change aussi. Voilà, c'est tout ce que.
Et il change quand le gouvernement? Je sais pas si vous savez.
Je connais pas la date des prochaines élections, mais.
D'accord, bon, on verra ça plus tard.
Mais après, le problème en soi de. Je le disais en introduction, c'est l'impact que ça aura. On parlait dans le cas français de l'indépendance de la Corse, de la Bretagne plus culturellement, mais ça a un impact réel sur les autres régions. La Vénétie, la Lombardie, qui comme la Catalogne, sont des régions riches, qui tirent le pays vers le haut. Et qui s'exonère...
Qui se fait freiner par le reste du pays. Mais dans ces cas-là, on s'attend à une Europe morcelée, en fait.
Mais pour moi, c'est pas un frein. C'est juste une question d'aider les autres. C'est pas parce que... C'est pas,
après, quand on se sent déjà détaché culturellement parlant et qu'on sent qu'on est freiné par le reste du pays, je peux comprendre ces volontés indépendantistes, personnellement. Et,
oui, mais dans ces conditions, c'est de l'individualisme. C'est l'Italie est quand même une région qui a été... séparés pendant avant le Risorgimento et il en reste énormément de traces aujourd'hui et on peut le voir par le fait qu'il demande l'indépendance. Mais l'indépendance catalane a vraiment un impact à l'échelle européenne. C'est pas juste une affaire intra-étatique.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, ils ont leur propre police aussi, leur propre gouvernement. Ils ont quand même. En plus, ils ont le nombre. Ils ont 7 millions d'habitants, ce qui est quand même.
7 millions 5. Ouais.
7 millions 5. Oui, et c'est plus que l'Irlande, il me semble qu'il y a 4 millions. Oui. Donc, ils ont tous les critères pour être un pays finalement.
Bon, bah, du coup, il y a la intervenante, comme je l'avais annoncé, qui est prête pour le direct. Donc, si.
Comment elle s'appelle?
Angela.
Angela. Ah, ok.
Enchanté. Je crois que c'est ça. Donc, je la lance Angela. Sur le direct.
D'accord.
C'est parti.
Allô. Allô.
Est-ce que vous nous entendez?
Oui. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Allô.
Oui. Ah. Oui. Bonjour.
Bonjour.
Parfait.
Oui.
Alors,
oui.
Bonjour, ok. Alors, on va vous poser quelques questions sur cette indépendance.
D'accord. Alors, oui, je vous écoute.
Déjà, merci beaucoup de nous appeler. Ça enrichit vraiment l'émission. Et donc, la première question.
Je vous entends très très mal.
Ok.
D'accord. Je vais essayer de m'appliquer. Est-ce que vous m'entendez bien là?
Allô, ça va mieux?
Oui, nous on vous entend
très bien.
Voilà. Donc la première question que je vous pose, c'est culturellement, historiquement, il y a une différence entre l'Espagne et la Catalogne. C'est une réelle différence qu'il y a?
Alors, je suis pas spécialiste en histoire. C'est vrai que la Catalogne a sa propre langue. Mais la Catalogne fait partie de l'Espagne, je veux dire, La Catalogne n'a jamais été un territoire indépendant. Du moins, c'est ce que disent les historiens. Donc, je peux pas non plus vous expliquer. C'est vrai qu'ils ont leur propre langue. C'est vrai qu'on parle beaucoup de catalan, mais ça n'a jamais été un territoire indépendant.
Donc, vous ressentez vraiment une, vous ressentez pas vraiment une différence entre la Catalogne et l'Espagne?
Moi, non. Enfin, moi, j'ai jamais habité en Catalogne, donc j'ai jamais vécu cette différence personnellement. Et donc j'ai même un peu de mal à la limite à la comprendre.
Ah oui,
d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter simplement les tensions que vous vivez entre du coup après le référendum, les tensions que vous avez vécues après le référendum?
Moi, je pense que les tensions sont différentes à l'intérieur de la propre Catalogne et l'histoire se vit, la situation se vit totalement différemment à l'intérieur de la Catalogne. C'est là où vraiment les tensions entre les familles, entre les collègues, entre les voisins, c'est là où les tensions sont vraiment des tensions. Alors qu'en dehors de la Catalogne, il y a plutôt un sentiment unitaire, un sentiment de... Moi, j'ai l'impression qu'on a tous dans... Enfin, le reste de l'Espagne a eu un sentiment d'attaque de la part de la Catalogne. On s'est senti attaqué, la grande majorité.
D'accord.
Ok.
On pensait pas
Est-ce que je pourrais juste de nuancer deux petites choses, parce qu'on était en train d'écouter l'émission avec Liam, et il y a deux petites choses que je voudrais nuancer.
Pas de souci. Allez-y.
Ou sur lesquelles je voudrais revenir. Par exemple, il y a un des locuteurs qui a expliqué que la Catalogne a le même PIB que la Suède, il me semble.
Que l'Irlande. Que l'Irlande, oui, c'est moi qui dis ça.
C'était que l'Irlande, oui, d'accord, effectivement, c'était que l'Irlande. Bon, c'est vrai, là, on va pas dire que non, mais il faut quand même nuancer un peu cela. Je veux dire, le PIB, on y contribue tous. C'est pas la Catalogne qui fait la charité au reste de l'Espagne. On contribue tous au PIB catalan, parce que les grosses entreprises internationales, Seat, Nestlé, etc., ont leur siège à Catalogne, et ces produits-là sont consommés dans toute l'Espagne. Ils ne produisent pas pour 6 millions de consommateurs qu'il y a en Catalogne, mais pour 42 millions ou 46 millions, pardon, plutôt, de consommateurs qu'il y a dans toute l'Espagne. Et donc là, à ce niveau-là, ils ont beaucoup faussé les chiffres.
Oui, c'est vrai.
Ils ont vendu à leurs électeurs l'indépendance comme le paradis sur Terre, alors qu'une fois qu'il a fallu sortir les chiffres réellement, les banques sont parties, les grosses boîtes, le secteur économique s'écroule un peu, et ils en sont à 2200 entreprises. C'est énorme, ils ont quitté la Catalogne.
D'accord.
Donc, c'est pour ça, je veux dire, ils oublient de dire qu'en fait, leur PIB, en partie, il est alimenté par ces 46 ou 47 millions de consommateurs de toute l'Espagne.
D'accord. C'est vrai que c'est tellement ça.
Et puis, parce qu'on oublie souvent cette partie, en fait. Et puis, une autre nuance, c'était, en fait... que si la Catalogne devenait indépendante, ça appauvrirait le reste des régions. Ben, en ce moment, ce qu'on voit, c'est un peu le phénomène contraire. Je veux dire, le PIB de Madrid est en train d'augmenter parce que malheureusement pour eux, les entreprises qui quittent la Catalogne viennent s'installer sur Madrid. Enfin, je crois que là, le secteur économique a un peu levé le voile, c'est un peu positionné dans l'affaire, et ils sont clairement contre, parce que bon, ça... Réellement, je veux dire, c'est plutôt un rêve, une utopie, qu'une situation...
concrète.
Réelle, je pense.
Bah, c'est surtout que ça va installer une instabilité en Catalogne.
Oui. Ça va diviser les Catalans.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc... je pense que ça va aussi leur poser beaucoup de problèmes au niveau des, des postes de travail, quoi, au niveau des possibilités de travail pour...
Ça va créer beaucoup de chômage, une perte d'emploi.
Je pense.
Voilà.
Je pense.
Et donc, personnellement, vous avez pu voter à ce référendum ?
Ben, moi, je pouvais pas voter à ce référendum. Il était seulement pour les Catalans, pour les habitants de la Catalogne.
Ouais. Oui, parce qu'elle n'est pas catalane.
Pardon ? Allô ?
Oui, allô, on est toujours là. Elle n'est pas catalane, donc elle n'a pas pu,
d'accord.
Elle a pas pu voter au référendum.
Oui, vous nous entendez ?
Vous entendez ?
Oui, ça y est, ça va être mieux.
Ok, d'accord.
Donc on a compris que vous étiez plutôt contre.
Contre, c'est ça ?
Oui, je suis plutôt contre, parce que moi je pense que ce serait le début de la fin pour l'Espagne, dans un premier temps, et pour l'Europe.
Okay.
Pour moi, c'est clair, net et précis. Ce serait le début de la fin, d'abord pour l'Espagne et ensuite pour l'Europe. Parce que les nationalismes et puis les indépendantismes, je veux dire, c'est pas un truc exclusivement espagnol. Il y en a en France avec la Corse, il y en a en Italie, etc. En Allemagne, en Belgique, etc.
Et donc vous serez plutôt pour ou contre de faire un référendum légal en Catalogne, organisé, pourquoi pas, par le gouvernement espagnol.
Disons que, je veux dire, le gouvernement catalan n'avait pas la faculté, il n'avait pas les pouvoirs, il se croyait des pouvoirs qu'il n'avait pas, quoi.
Il pouvait peut-être pas, enfin, il se doutait peut-être que
je vous entends pas, je suis désolée.
Il se disait peut-être que le gouvernement espagnol n'allait rien faire. Donc, il fallait un peu bousculer les choses. Pour essayer de faire quelque chose, parce qu'au final, ils ont fait ça et on en parle de plus que jamais.
Mais je sais pas exactement quel était leur but, quelle était leur intention, si vraiment ils pensaient que ça pouvait être possible. Mais je vois deux possibilités. La première, qui pense réellement que c'était possible. Et alors c'est des incompétents, parce que du point de vue économique, il y a des études qui prouvent que c'est pas possible, justement parce que ça provoque l'Europe s'est prononcée, Bruxelles s'est prononcée contre l'indépendantisme et a déclaré très clairement que toute région qui abandonnerait, dans ce cas-là, la Catalogne devrait abandonner l'Union européenne. Donc, c'était pas possible du point de vue économique. Et puis, on a vu aussi que, à partir du moment où l'indépendantisme est vraiment allé en avant, la réponse du secteur économique et financier a quand même été assez catégorique aussi.
D'accord.
Donc, soit ils l'ont fait en y croyant réellement, soit ils ont dupé et trompé leurs électeurs en leur présentant ou en essayant de les convaincre d'une situation qui n'était vraiment pas
d'accord.
La situation réelle, je pense.
Merci beaucoup d'autres interventions.
Merci beaucoup,
En tout cas, vous parlez très bien français.
Merci.
Et je vous reprends off, je vous enlève du direct. Mais merci beaucoup pour l'intervention.
Merci, au revoir.
Bon après-midi, au revoir.
Au revoir.
Donc, c'était hyper intéressant de voir un point de vue interne comme ça.
Merci beaucoup.
On va enchaîner sur le second sujet, le harcèlement. Donc, le harcèlement sexuel qui a fait un grand boom ces derniers temps. Enfin, en tout cas, toutes les femmes commencent à avouer qu'elles ont été victimes de harcèlement sexuel ou de harcèlement dans la rue. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous attendiez un tel impact dans la société ? Et si c'était si répandu ? Marius, vas-y.
Pour moi, le harcèlement sexuel, c'est vraiment un mot sans nom. Enfin, ça a toujours existé, il faut pas se leurrer. Et le fait qu'il y ait eu l'affaire Weinstein. Ça a vraiment mis au jour toutes les autres affaires. Ça a été l'effet déclencheur.
Qui a poussé plusieurs fois à se lancer, quoi.
Mais au final, ça a toujours existé. Est-ce que ça existera toujours ou ces affaires, ces révélations vont peut-être calmer les agresseurs
les futurs agresseurs, c'est vrai. Qui sont moins à l'abri peut-être
En tout cas, je pense que il faut vraiment nuancer l'agressement sexuel qui n'est pas tellement bien défini. Comment on pourrait définir une agression sexuelle? Enfin,
C'est vrai qu'on peut on peut en venir à la différenciation du de harcèlement sexuel, de la drague, de l'approche un peu lourde. Mais d'abord, un petit avis quand même, je pense, intéressant pour savoir si c'est seulement nous qui tombons des nues ou si c'est au final tout le monde qui s'y attendait et que c'était quelque chose de prévisible, entre guillemets, quand même.
Je pense pas vraiment.
C'était pas prévisible, oui.
À mon avis, genre, mais, tout le monde a été surpris.
On le savait, mais, impact.
Un sujet tabou dont on n'osait pas parler ou.
Tout le monde savait. D'ailleurs, l'affaire Weinstein, il y a plusieurs réalisateurs, acteurs américains qui ont déclaré qu'ils savaient, mais qu'ils le protégeaient.
Ils avaient peur pour leur carrière.
Voilà, notamment.
D'accord. Manon, vas-y.
Oui, comme tu le disais, Marius, tout à l'heure, ça a toujours existé. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, mais disons que je suis plus choquée du fait que ça devienne un peu trop socialement accepté, je trouve. Parce que la plupart des femmes qui sont harcelées ne vont pas porter plainte tout de suite. Voilà, elles vont attendre. Et, parce qu'elles savent que la justice ne va pas poursuivre. Donc...
C'est peut-être un sentiment de honte aussi, c'est souvent ça, c'est souvent ce qui revient chez les victimes, c'est qu'elles ont un peu honte de cette
Oui, elles ont honte, mais même, je trouve, on a entendu parler, beaucoup de gens réagissent pas dans la rue quand ils voient une personne se faire agresser, les personnes ne réagissent pas, pas tout le temps, mais...
Donc il y aurait besoin de plus de prévention.
C'est vrai qu'un effet de groupe, je pense au frotting dans les métros de Paris.
Oui, donc qui consiste, comme le nom l'indique, à se frotter.
Cet effet, justement, d'être dans un groupe, ça pousse les gens à ne pas agir. Et c'est ça le danger, c'est que de ne pas agir en groupe, ça va banaliser la chose et ça va presque devenir courant.
Ne pas agir en groupe, c'est-à-dire ?
Ne pas agir en groupe, c'est-à-dire que... Dans un métro, c'est bondé, c'est tout le monde le sait pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis Paris.
Il y en a, je pense.
et justement, les gens le savent, les gens le voient, mais en se disant que quelqu'un va agir, ils n'agissent pas.
D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur ça. Plus il y a un groupe qui est resserré, moins les gens agissent. À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se lance et qui amène les autres en disant « Venez m'aider, c'est pas normal.
Ouais. » Je me permets même de citer le théoricien Oslon qui a mis... Olson, pardon.
Bravo Marius. Référence culturelle. Et donc, harcèlement sexuel, donc là c'est peut-être un degré en dessous, c'est le harcèlement de rue qui aussi agite la France en ce moment. Ouais. La ministre de la Justice qui a décidé de créer un projet de loi sur le harcèlement de rue. Et donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la différence entre la drague et le harcèlement de rue, ce serait pas tout simplement que l'homme en question soit beau ou laid? Parce que si une fille se fait approcher par un bel homme, elle considérera ça plutôt comme de la drague, alors que si il est laid, peut-être du harcèlement ou...
T'en penses quoi, Manon ?
Non, je pense pas. Enfin, le harcèlement, c'est plus violent. Voilà, il va avoir des mots violents. La drague, c'est plus poli, ça. Puis ça prend en compte la réception, de deux personnes, alors que le harcèlement, ça prend en compte qu'une personne, la volonté de qu'une personne. Donc voilà.
Ouais, d'accord. Sans penser.
Après, pour revenir sur le projet de loi de la ministre, c'est une très bonne, c'est de très bonne volonté. Mais je pense qu'on a déjà un bon paquet de lois qui ne sont jamais appliquées.
C'est vrai que c'est délicat à appliquer ça.
Comment dans la rue Comment et pour quelle raison un policier verbaliserait comme ça dans la rue? Pour peu qu'il y ait un policier dans la rue à ce moment-là.
Ouais, c'est ça.
Comment déjà, le policier pourrait-il verbaliser ça sous quel
les critères qui sont énoncés dans la loi, c'est dans le projet de loi, c'est s'il y a s'il n'y a pas consentement, s'il y a insistance et s'il y a répétition.
Oui, voilà. Et comme disait Baptiste, on se rapproche du critère de beauté qui est au final une personne belle qui drague, ce sera de la drague qui n'est pas lourdingue. Une personne laide.
C'est vrai, elle peut se sentir plus agressée.
Elle peut se sentir
plus agressée, ouais.
Pas forcément, mais.
Forcément, mais comment un agent des forces de l'ordre pourrait-il vérifier ça?
Après, c'est vrai, au niveau pratique, ce serait peut-être pas forcément possible, mais même ce serait au moins une mesure symbolique.
Oui, c'est surtout pour la symbolique, je pense. Mais en soi.
Est-ce que ça pourrait changer les consciences de faire de ce genre de loi? Est-ce que vous pensez que la société actuelle est prête à lutter contre ce harcèlement, que ce soit les hommes ou les femmes, que tout le monde s'unisse contre...
C'est sûr que ça permet de mettre au jour un problème, peut-être un tabou, quelque chose dont on n'a pas envie de parler, et ça permet de le mettre au jour et que chacun fasse attention, regarde lui-même ses gestes et regarde ceux des autres, et peut-être de se dire, c'est quelque chose qui est répréhensible aujourd'hui, peut-être que je vais agir, peut-être que je vais faire la remarque à un agent des forces de l'ordre qui n'est pas loin, etc.
Pourtant, il y a un numéro qui a été mis...
Ouais, numéro anti-relou.
Un numéro anti-relou, voilà, qui a été mis à disposition des femmes qui se sont senties harcelées par un homme. Bon, après, c'était peut-être pas la meilleure des manières, mais le problème avait été mis à jour. La société donc, est en pleine prise de conscience. Pourtant, ce numéro a dû être désactivé après de multiples menaces, comme quoi c'est quand même vachement contesté. Donc la société n'est peut-être pas si prête à lutter contre ce problème.
C'est vrai.
Mais je pense, alors moi, je situerais, pour ma part, vraiment au niveau de la répétition et du non-consentement, la différence entre le harcèlement et la drague, pas forcément au niveau de la beauté, mais au-delà de ça, je pense que c'est pas forcément les projets de loi qui vont amener à la libération de la parole sur ces sujets, mais plutôt voilà, une grande envie de parler de ça. En fait, faudrait que tout le monde accepte qu'il y ait plus vraiment de tabou sur ces sujets, parce que c'est des sujets qui ont été tabous pendant longtemps. Comme tu as dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de honte aussi, ce qui empêchait forcément d'en parler. Et ensuite, sur le numéro dont tu parlais, moi je pense que c'est une très bonne initiative, et c'est le genre d'initiative que voilà qu'on devrait suivre. Faudrait que ça vienne, c'est tous ceux qui veulent agir pour ça devraient suivre ce genre de choses.
Si je peux me permettre de compléter, donc il y a eu cette initiative, il y a un collectif qui, bon, le nom peu élégant, qui s'appelle Payta Schneck, donc voilà. Et aussi pour les plus jeunes qui connaissent peut-être Marion Séclin sur YouTube, qui fait des vidéos, qui justement avait fait des vidéos sur ce sujet, l'harcèlement de rue. Et justement, quelque chose que j'ai trouvé pertinent, donc pour revenir sur Payta Schneck, sur le collectif, qui... rigolo, voilà. Donc voilà, sur le terme de répétition que la ministre avait mis dans le projet de loi, que c'était totalement pas pertinent, parce que la répétition, au final, il suffit de se faire siffler pour une fille, de se faire siffler une fois dans la rue, siffle un chien, quoi, donc faut remettre les choses en place, c'est pas du tout correct, donc c'est pas une question de répétition, c'est juste une question de une fois suffit, donc c'est pour ça que je pense que même... le sujet est très très ouvert, quoi.
En parlant numéro anti-relou, on peut peut-être vous rappeler le nôtre, qui n'est pas relou du tout d'ailleurs. Ce sera le 09 152 368 531.
C'est pas ça.
Et bah c'est qui a écrit ce gros micro. Donc voilà, on s'est fait saboter. Les studios sont sabotés. Donc vas-y, je te laisse le
c'est 0952 368 531.
Bah, c'est exactement
t'as
ce que je viens de dire. Non, 0952 368 531. Voilà, exactement. Donc, c'est tout pour le harcèlement de rue. Est-ce que des gens, ou harcèlement sexuel en général, est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Et concernant le numéro anti-relou, enfin, un peu n'importe quoi d'autre concernant le harcèlement, est-ce que, par exemple, un homme qui se fait harceler ou agresser
peut
appeler?
Oui, parce
que
c'est vrai qu'on parle femmes, mais au final, ça concerne aussi certains hommes.
Donc. C'est vrai que c'est... très majoritaire pour les femmes, mais c'est vrai que ça concerne aussi certains hommes. Est-ce qu'ils peuvent appeler? Et des agressions venant du même sexe, est-ce qu'ils peuvent appeler aussi?
Absolument.
Oui, d'ailleurs, parce que j'aimerais faire remarquer que beaucoup parlent d'agressions sexuelles envers des femmes, venant surtout d'hommes. Mais bizarrement, on pointe souvent plus du doigt des femmes se faisant agresser par des hommes plutôt que l'inverse. C'est vrai que je connais pas beaucoup de cas qui ont été pointés du doigt d'hommes qui ont été agressés par des femmes.
Après, il y en a beaucoup moins. Je pense que ce qu'on peut plus pointer du doigt plutôt qu'une femme qui agresse un homme, c'est tout simplement un homme qui agresse un homme. Je veux dire, dans la rue, les femmes peuvent se faire harceler sexuellement, alors que des hommes peuvent se faire racketter, peuvent se faire, enfin voilà, dans, tout ça.
C'est
dans
un autre type d'harcèlement.
Oui, c'est un autre type d'harcèlement, mais là, ça peut toucher tout le monde, des hommes qui racketent des femmes, des enfants.
C'est plutôt genre, je veux dire, globalement, ce qui se passe dans la rue, ça touche tout le monde au final. Oui. Mais les femmes qui.
Soyons honnêtes, des femmes qui harcèlent un homme, déjà le cas est très minoritaire, si ce n'est pas inexistant.
Bah dans la rue, une femme peut harceler un homme.
Si, il doit y en avoir.
Mais est-ce qu'un homme, si une femme a du mal à avouer et à appeler le numéro anti-relou, est-ce qu'un homme osera? Personnellement, je ne pense pas. Mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas...
Oui, c'est bizarre, c'est aussi ce que pensent les hommes de même, parce que bizarrement, quand on se fait draguer par une fille, la majorité des hommes, ils se sentent flattés par leur potentiel d'attirance, alors que bon, une femme, elle trouve le mec relou.
Après, peut-être que la lourdeur est plus importante du côté
là,
de l'homme.
Effectivement,
que
oui, si on insiste vraiment beaucoup, et les femmes, pas vraiment, je pense. Ouais. Bref, faut voir.
Donc, avant de passer juste sur la dernière partie avec donc les questions d'actualité, je voulais juste savoir si Manon, toi, ça t'était déjà arrivé de te faire comme ça aborder de façon un peu.
On est dans le Diwa, donc
c'est plus le poids, voilà. Mais quand. Non.
Bah, disons que non, dans le Diwa, c'est beaucoup moins fréquent que dans les grandes villes. Ouais. Après.
Oui, parce que dans les grandes villes.
Non, personnellement, pas moi.
Dans les grandes villes, okay. Je crois que quasiment toutes les femmes étaient unanimes pour dire qu'une fois dans leur vie, elles s'étaient faites. Harceler ou siffler, enfin je veux dire par
oui,
des,
ouais.
Pas draguer quoi, à nuancer vraiment.
Ouais, mais ça a dû arriver
peut-être une fois un sifflement, voilà, mais
pas plus.
Ouais. Voilà.
Et vous les garçons, jamais vous avez.
jamais on a harcelé.
Malheureusement,
c'est un instant
qu'on fait ça. Non,
à harceler. C'est ça.
Bon, parlons-en de l'internat.
Ça, c'est
un autre sujet. Alors, les
questions. Émission. Donc, on va commencer les questions brèves. On va faire, je pense, un petit tour de table. Ce serait peut-être pour voir un peu les avis des autres. Et puis, si quelqu'un n'a pas d'avis...
Peut-être rappeler les questions.
Oui, ouais, on va d'abord les rappeler.
Bon,
on va faire une par une, ce sera plus simple.
Ouais. C'est parti.
Alors, la première question, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est le principal opposant au gouvernement Macron? Qui veut commencer? On commence dans ce sens, on tourne. Ouais.
Moi je suis pas vraiment beaucoup la politique, alors bon, ouais. J'ai bien regardé les présidentielles de
2017
assez près, mais clairement là depuis l'élection, je suis pas sûr que Mélenchon soit plus contre le gouvernement Macron que quelqu'un d'autre.
Ok, d'accord.
Pour moi, Jean-Luc Mélenchon n'est très clairement pas l'opposant au
principal
opposant au gouvernement en place, c'est juste un mouvement qui veut sa part du gâteau pour le gouvernement et essaye de faire du bruit.
Ok, d'accord. Bah, chacun donne son avis, chacun son tour. Vas-y, Alexandre.
Je crois que c'est pas réellement le plus grand opposant. C'est peut-être le plus grand, mais il n'y a pas. C'est un gouvernement assez spécial, le nouveau gouvernement de Macron. Donc. On ne sait pas si réellement les Républicains sont pour ou contre. Il y en a oui, il y en a non.
Bah justement,
c'est ça.
Si toutes les familles sont divisées, constate parmi.
Oui, mais ils ont un groupe plus réduit.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc le PS, bon bah, ils vont être contre, ils vont être plus ou moins contre. Et c'est vrai qu'au final, le groupe de Mélenchon, c'est peut-être celui qui va le plus être contre. Macron, mais au final, ils ont le groupe le plus. Ils ont l'un des groupes.
Donc, tu penses qu'il y a pas vraiment d'opposition en soi à Macron actuellement, à l'Assemblée nationale? Pas une opposition.
Je pense pas qu'il y a réellement d'opposition.
D'accord. Ok. Pourquoi pas?
Clairement, d'après ce que je vois, pas forcément uniquement des médias de gauche, sur n'importe quel média, d'après ce que je vois, on pourrait se rendre compte que le groupe de la France Insoumise
et le principal opposant à Emmanuel Macron. En plus, le fait que qu'ils aient pu obtenir un groupe à l'Assemblée nationale, au-delà de 15 sièges, ça leur a donné beaucoup de pouvoir par rapport au Front National, ouais, qui n'a pas obtenu de groupe. Et face à ça, donc il y a le PS, Nouvelle Gauche, qu'on n'entend pas trop. Enfin,
ouais, qui est vachement divisé en soi.
Oui, en soi, oui.
Qui accorde.
Qui est toujours opposé, mais ouais, voilà.
Dans une moindre mesure.
Et à côté, il y a les Républicains qui sont assez proches d'Emmanuel Macron, finalement. D'ailleurs, pour la... Oui, assez proches. Bah, c'est relatif. Et d'ailleurs, pour la réforme du Code du Travail, beaucoup ont voté pour. Ouais. Car c'est une réforme libérale, c'est ce que veulent les Républicains.
Les Républicains essayent de rejeter les constructifs qui sont...
Ils essaient de s'opposer davantage. On le
oui,
voit d'ailleurs.
Les Républicains, c'est le bureau politique des Républicains. Ce n'est pas tous les députés républicains.
Mais après, si Laurent Wauquiez venait à... Ce qui est quand même fort probable actuellement, il me semble.
Oui, oui, oui.
S'il venait à être président LR, ça serait quand même une opposition bien plus marquée qu'actuellement.
Et peut-être que beaucoup de députés républicains rejoindraient les constructifs, parce qu'ils n'adhèrent pas à l'idéologie de Laurent Wauquiez, qui est assez radicale.
Ouais.
Antoine.
Moi, je pense au contraire que Mélenchon est le principal opposant d'Emmanuel Macron. D'abord, un peu par défaut, parce que les partis traditionnels, le PS et les Républicains, sont en reconstruction, enfin, et le Front National aussi. C'est-à-dire qu'on pensait qu'à droite, le Front National émergeait depuis quelques années, et ils ont, je crois qu'ils ont traversé une crise politique il y a quelques temps, donc ils sont aussi en restructuration. Ensuite, je pense que M. Mélenchon est celui qui s'exprime le plus dans les médias, donc c'est peut-être pas forcément le principal opposant sur le plan idéologique, mais en tout cas, c'est celui qui monopolise le plus le temps de parole, alors qu'Emmanuel Macron ne dispose pas de beaucoup de voix pour le soutenir, si ce n'est Christophe Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement. Donc c'est vrai que M. Mélenchon, enfin même le groupe France Insoumise, a presque un boulevard pour s'exprimer, dû au manque d'opposition. Et ensuite, une dernière chose, c'est que je pense qu'il y a une sorte de nouveau clivage qui se forme, pas forcément droite-gauche, mais plutôt entre les libéraux au niveau économique et ceux qui sont plutôt notamment anti-libéral au niveau économique. Et ce clivage est bien représenté par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Ok, pourquoi pas. Manon, à toi, si tu as un avis.
Moi, je pense pas que Mélenchon soit le principal opposant. Après, je pense que c'est surtout celui qui se fait le plus montrer. Voilà, comme le disait Antoine dans les médias, tout ça. Puis par rapport à la manifestation qu'il avait faite aussi, il me semble, je me rappelle plus, au mois d'octobre, il me semble, ouais, contre le gouvernement Macron, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais voilà, c'est celui qui se fait le plus montrer, mais pas spécialement le principal opposant.
Le plus puissant, en tout cas.
Oui. Oui.
Bah, moi, je rejoins complètement Antoine. Pour moi, c'est le principal opposant parce que il fait parler de lui et il arrive vraiment à dénoncer donc ce qui, à ses yeux, est dangereux pour la France et pour les salariés. Et je trouve ce qui est intéressant, rajouter une dimension, c'est qu'il arrive à défendre ses idées et à montrer ce que lui aurait pu potentiellement proposer à la place. Et ça montre quand même une véritable alternance. On a quelqu'un au téléphone ?
C'est monsieur Simon Séguier.
Monsieur Simon
Séguier. Ah oui.
Voilà, un petit coucou. Je vous mets sur le direct, monsieur.
Et ben on va demander son avis avec la question posée.
M'entendez ?
Oui, on vous entend.
Oui, parfait.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour.
Bah, c'est très intimidant d'être au téléphone, en fait.
Ah oui.
On est habitué de l'autre côté, dans le studio.
C'est extrêmement intimidant d'être animateur.
Juste trois petites choses, je ne vais pas vous interrompre pour longtemps, parce que c'est très intéressant, j'écoute depuis le début. Allez. Merci de m'avoir cité au début, même si j'avais un peu l'impression d'être mort avec vos genre hommage de minute de silence, mais c'était sympa quand même. Alors par contre, je vous rassure, hein, c'est de la marque de fabrique de CCC, vous étiez déjà à l'antenne à peu près 2 minutes avant.
Oui.
Ouais. Vous croyez que vous n'étiez pas à l'antenne, donc il y a un petit décalage d'horaire.
On a entendu
deux trois bêtises, mais ça serait pas CCC si c'était pas ça. Donc j'ai reconnu l'émission. Et puis voilà, je trouve que j'ai bien fait de vous laisser les clés parce que vous étiez vraiment beau. Vous avez
Merci.
Même des correspondants locaux.
Oui. Ouais. Ouais.
Donc ça progresse. Donc continuez bien.
Bah merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Je ne regrette pas d'avoir laissé autonome.
Vous voulez pas donner votre avis sur la question ? Est-ce que Mélenchon est le principal opposant ?
Je vous entends de très très loin par contre au téléphone.
Est-ce que vous nous entendez là ?
Oui, là c'est mieux.
Est-ce que Mélenchon est le principal... C'est ça, exactement. Est-ce que Mélenchon est le principal opposant face au gouvernement Macron ?
Tu veux me parler dans la politique.
Selon vous.
En tout cas, Mélenchon, monsieur Mélenchon se présente comme ça. Après, c'est un peu un combat entre différents qui voudraient être dans l'opposition, mais lui, il s'est présenté depuis le début comme un opposant. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Il occupe beaucoup le terrain médiatique, en tout cas. Il y a lui et Marine Le Pen. Parce que pour l'instant, les Républicains sont un peu en stand-by, on va dire.
Elle est un peu moins présente. Là, elle revient.
Elle n'a pas de groupe. Elle n'est pas très puissante.
Bah, c'est pour ça,
Non, puis ça se passe pas très bien.
Et puis elle est en pleine reconstruction. Voilà, c'est ça.
C'est compliqué du côté des Républicains, donc il en profite aussi, monsieur. Mais enfin, il a raison.
Profitons-en.
L'opportunisme. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'appel. Et puis, bonne soirée.
Passez une bonne soirée.
Au revoir.
Corrigez bien les
copains. Continuez bien, à bientôt.
On passe à une autre question. Jean Lassalle, on peut le voir comme un principal opposant.
C'est vrai. Jean Lassalle, d'ailleurs, en revenant sur le deuxième sujet, a été accusé d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel.
Il paraît, oui.
Ouais. Donc, comme quoi, on n'aurait pas cru.
Meilleur.
Ouais. Alors, on passe à la question suivante. Est-ce que ça vaut le coup, pour vous, encore aujourd'hui, de manger de la viande après toutes les souffrances animales qu'on connaît, les problèmes de santé aussi, dû à la viande? Si vous avez un avis là-dessus, Alyosha, je te laisse commencer.
Alors là, c'est très intéressant, justement parce que j'aime bien poser mon, j'aime bien donner mon avis sur ce genre de sujet, parce que, alors, je vais le dire, je suis un gros viandard.
Mais non.
Là,
on n'aurait pas cru.
J'aime énormément la viande et ça me terrifie de voir quand même qu'il y a des gens qui font un scandale pas possible pour. Par exemple, quand on voit des gens qui sont en train de chasser, qui font un scandale pas possible et qui pourtant derrière achètent de la viande qui sont tuées dans des grands abattoirs et qui disent rien. Alors c'est bizarre, mais dès qu'on te met un animal qu'on a tué avec un fusil et un animal à qui on a tranché la tête dans un abattoir, les gens ont des réactions différentes. Pareil pour les taureaux sacrifiés dans les corridas, par exemple, qu'on faisait avant. Alors, il y avait des gens qui étaient contre les corridas, qu'on voulait les faire supprimer. Il y en a qui avaient le plaisir du sport. Et bizarrement, quand ils achetaient de la viande en grande surface, ils disaient rien. Ils acceptaient le fait d'acheter du jambon, du saucisson, du steak dans des grandes surfaces. Mais alors, dès qu'on te met un sanglier ou un cerf qui a été tué par un chasseur, ça crie.
Moi, je pense, je mange énormément de viande, mais aujourd'hui, je commence à me poser des questions sur le fait de manger de la viande, pas du tout pour les souffrances animales. C'est des cas vraiment isolés, vraiment des cas isolés.
Les souffrances animales ?
Les souffrances animales, pour moi, c'est des cas isolés.
Ouais.
C'est peut-être pas ne pas arrêter. Enfin, ne pas arrêter de manger. Je ne veux pas arrêter de manger de la viande. Mais la diminuer serait quelque chose de
souhaitable.
De souhaitable pour la qualité de la viande aujourd'hui.
Oui. Oui, c'est vrai, parce que si plus on consomme, au final, plus la viande sera de moins bonne qualité. Ouais.
Voilà.
Moi, mon avis sur la viande, c'est que, comme Alyosha, j'aime la viande, mais je suis quand même assez partagé. Je suis très sensible au niveau de ce que peuvent voir les ressentir les animaux, et ça me fait de la peine, tant de souffrance. Et je pense pas que c'est pour me donner bonne conscience. Je pense que c'est normal de manger de la viande en faisant attention d'où elle provient, que ça soit quelque chose de biologique, dans des abattoirs.
Pardon, excusez-moi.
Où c'est plus protégé. Et par exemple, ne plus manger McDo, ne plus manger des jambons d'une marque dont on ne sait pas d'où elle vient. Quoi. Faire toujours attention à acheter au marché ou quelque chose comme ça.
C'est souvent des raisons économiques, c'est pas les mêmes prix.
Oui.
Mais après, si on n'a pas les moyens, peut-être autant, plutôt que de manger de la viande de mauvaise qualité, essayer de diversifier sa consommation.
Son alimentation, oui.
Ou en manger moins souvent, mais de meilleure qualité.
Oui, aussi. Oui,
ouais, je pense que c'est quelque chose de plus raisonnable.
Ok.
Moi, je rejoins complètement Alexandre sur cet avis-là. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt de manger... on peut continuer à manger de la viande, mais c'est plutôt de manger de façon éthique, plus éthique. que ce soit une production bio, locale ou ou même uniquement une production pas forcément locale mais juste plus éthique, et ce sera et c'est meilleur pour tout le monde, même pour notre santé.
Et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est exactement ce que je pense du sujet. Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est à prendre en compte au niveau de la viande, au niveau de l'agriculture en général, c'est peut-être penser aussi aux producteurs. Je sais que c'est alors plutôt dans le secteur laitier, mais qu'il y a eu plusieurs crises du lait notamment. Et alors avoir une viande de meilleure qualité, et aussi penser, voilà, penser aux producteurs, que toute la chaîne, que toute la chaîne soit saine, si je puis dire.
Moi je pense qu'on, voilà, on est dans une société où on mange quand même beaucoup, beaucoup trop de viande. Après, on peut pas interdire la viande, mais au moins limiter sa consommation. Rien que pour sa santé, enfin voilà, c'est important. Ça a été prouvé que manger trop de viande, c'était très mauvais pour le corps. Puis même aussi ce qui concerne la viande industrielle, hein, les animaux sont bourrés d'hormones, de médicaments, enfin voilà. Et je trouve qu'on a trop fait aussi des animaux un objet de consommation, ouais, en fait. Okay.
Voilà. Et un peu oublier la conscience animale.
Voilà, ou voilà, totalement. En fait.
Ce qu'ils peuvent ressentir. Mmh. On le ferait pas subir à des humains.
Oui,
voilà.
C'est clair.
Oui.
Bon, il y a personne qui est végétarien, personne qui est.
C'est vrai
ici.
Qu'on est tous.
De plus en plus, j'y pense, moi.
Ah ouais, ouais.
Bah, moi, j'ai
arrêté. Fait de mode ou vrai.
Non, enfin, pas végétarien totalement, mais limiter drastiquement la viande.
D'accord. Okay.
Si tu peux ne pas en manger, tu le fais.
Oui. Manon, tu voulais dire ?
Oui, bah moi, enfin, je suis pas végétarienne, hein, mais parce que je mange encore du poisson, donc voilà.
Ah, tu manges plus de viande animale ?
Non, enfin, j'ai bien limité, disons. Enfin, ouais. Là, ça fait quelques mois que j'en ai pas mangé déjà. Donc,
ah oui, ok.
Ouais.
Bon, bah c'est respectable. Moi, j'ai rien à ajouter. Hein, tout a été dit, je pense.
Ouais. Donc c'était la première de cette saison. Donc c'est CCC. 45, je crois, numéro 45, ou quelque chose, 46, 46,
ouais.
Même 46. Le temps passe vite.
On n'était pas là, mais c'est pas grave. Donc ce sera tous les premiers mardis du mois,
ouais,
à 18h.
18h.
Ouais. Horaire de 1h. Voilà, on va se quitter là-dessus. Il me semble qu'on a été dit.
C'était une première un peu.
Test.
Voilà, on va dire test, donc il faudra nous excuser pour les
quelques
cafouillages, les problèmes techniques récurrents.
On peut être
fiers
de nous.
On s'applaudit ou c'est le moment
on peut s'applaudir. Ouais, je pense qu'on peut s'applaudir.
Et on peut aussi applaudir notre auditoire.
Ah, aussi,
oui,
aussi.
Oui, oui.
Merci à tous ceux qui sont présents et qui nous suivent depuis le début.
Et à la prochaine fois.
La prochaine fois, le mardi 9 janvier, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème technique.
Décembre. Tu as oublié le mois de
décembre. Ouais.
On sera là début décembre, le premier mardi du mois.
Exactement.
Merci à tous.
Bonsoir.
Et puis au revoir.
Bonne soirée. Passez une bonne soirée.